Chapitre 2. Le pont 4.
Les Parchendi furent notre premier indice. De longues semaines avant qu'ils n'abandonnent leur quête des cœurs de gemmes, leur comportement au combat se modifia. Ils s'attardaient sur les plateaux après les batailles, comme s'ils attendaient quelque chose. Extrait du journal intime de Navani Colin, Gézèse, 1174.
Le souffle d'un homme était sa vie, exhalé petit à petit dans le monde. Kaladin respirait profondément, les yeux clos, et ce fut l'espace d'un instant tout ce qu'il entendit. Sa propre vie qui entrait, ressortait, suivant la cadence du tonnerre qui grondait dans sa poitrine. Son souffle, sa propre petite tempête. Dehors, la pluie avait cessé. Kaladin demeura assis dans le noir. Quand les rois et les riches Palsiris mouraient, on ne brûlait pas leur corps comme celui des gens du peuple. À la place, on les spiricantait en statues de métal ou de pierre, figées pour l'éternité. Les cadavres des sombres Iris étaient brûlés. Ils se transformaient en fumée, qui s'élevait vers le ciel et ceux qui pouvaient bien les y attendre, comme une prière brûlée. Le souffle d'un pâle Iris n'était pas différent de celui d'un sombre Iris, ni plus suave, ni plus libre. Le souffle des rois se mêlait à celui des esclaves, puis d'autres hommes les inspiraient, encore et encore. Kaladin se leva et ouvrit les yeux. Il avait passé la tempête majeure dans l'obscurité de cette petite pièce qui flanquait les nouveaux baraquements du pont 4, entièrement seul. Il se dirigea vers la porte, mais s'y arrêta. Il posa les doigts sur une cape qu'il savait s'y trouver suspendue à un crochet. Dans le noir, il ne parvenait pas à distinguer sa couleur d'un bleu profond, ni le glyphe des collines à l'arrière, qui avait la forme de l'emblème de Dalinar. Chaque changement survenu dans sa vie semblait avoir été marqué par une tempête, et c'en avait été une grosse. Il ouvrit la porte d'une poussée, et ce fut en homme libre qu'il sortit à la lumière. Il ignora la cape, pour l'instant. Les hommes du pont 4 saluèrent son apparition. Ils étaient sortis se baigner et se raser pendant les accalmies de la tempête, comme à leur habitude. La file touchait presque à son terme, Rock ayant rasé chacun des hommes tour à tour. Le grand manche-corne fredonnait pour lui-même tout en passant le rasoir sur le crâne dégarni de Drei. L'odeur humide de la pluie imprégnait l'air, et seul le feu tout proche trahissait l'existence du ragoût que le groupe avait partagé la veille au soir. Par bien des aspects, cet endroit n'était pas si différent des dépôts de bois auxquels ces hommes avaient récemment échappé. Les longs baraquements de pierre rectangulaires étaient très similaires, spiricantés plutôt que bâtis manuellement. Ils évoquaient d'immenses bûches de pierre. Chacun possédait en revanche deux pièces plus petites sur les côtés, destinées aux sergents et munies de leurs propres portes ouvrant sur l'extérieur. Elles portaient encore les symboles des pelotons qui les utilisaient précédemment. Les hommes de Kaladin allaient devoir peindre par-dessus. « Moash !» lança-t-il. « Scar, Teft !» Tous trois accoururent vers lui, pataugeant dans les flaques laissées par la tempête. Ils portaient la tenue des hommes de pont. Un simple pantalon coupé aux genoux, ainsi qu'un gilet de cuir sur leur torse nu. Scar était debout malgré sa blessure au pied, et s'efforçait visiblement de ne pas boiter. Pour l'heure, Kaladin ne lui ordonna pas de se reposer au lit. Sa blessure n'était pas trop grave et il avait besoin de lui. « Je veux regarder de quoi nous disposons », déclara Kaladin en les conduisant à l'écart du baraquement. Il accueillerait 50 hommes ainsi qu'une demi-douzaine de sergents. D'autres baraquements le flanquaient de chaque côté. Kaladin s'en était vu attribuer un bloc entier, 20 bâtiments, pour loger son nouveau bataillon d'anciens hommes de pont. 20 bâtiments. Que Dalinar parvienne si facilement à trouver un bloc de 20 bâtiments pour les hommes de pont témoignait d'une terrible réalité. Le coup de la trahison de Sadeas. Des milliers de morts. En effet, des scribes de sexe féminin travaillaient près de certains débaraquements, supervisant des parches qui en sortaient des tas de vêtements et autres effets personnels. Les possessions des défunts. Plusieurs de ses scribes avaient les yeux rouges et l'air éreinté. Sa déesse venait de créer des milliers de veuves dans le camp de Dalinar et sans doute tout autant d'orphelins. S'il fallait à Kaladin une raison supplémentaire de haïr cet homme, il la trouvait ici, dans la souffrance manifeste de celle dont les maris lui avaient fait confiance, sur le champ de bataille. Aux yeux de Kaladin, il n'existait pas de péché plus grand que de trahir ses alliés au combat. Sauf peut-être trahir ses propres hommes, les assassiner, alors qu'ils venaient de risquer leur vie pour vous protéger. Kaladin éprouva une bouffée de colère immédiate en pensant à Amaram et à ses actes. Sa marque d'esclave semblait de nouveau lui brûler le front. Amaram et sa déesse. Deux hommes dans la vie de Kaladin qui allaient, à un moment ou à un autre, devoir payer pour leurs actes. Et ce paiement s'accompagnerait dans l'idéal d'un intérêt non négligeable. Kaladin continua à marcher avec Teft, Moash et Scar. Ces baraquements que l'on vidait lentement d'effets personnels étaient également remplis d'hommes de pont. Ils ressemblaient beaucoup à ceux du pont 4, même gilet, même pantalon aux genoux. Et cependant, par d'autres aspects, ils n'auraient pas pu leur ressembler moins. Ils avaient les cheveux hirsutes, des barbes qu'ils n'avaient pas taillées depuis des mois, des yeux caves qui ne semblaient pas cligner assez souvent, des dos voûtés, des visages sans expression. Chacun de ces hommes semblait assis seul, même lorsqu'il était entouré de ses camarades. « Je me rappelle cette sensation », déclara Scar tout bas. Le petit homme maigre et nerveux avait les traits anguleux et les cheveux grisonnants aux tempes, bien qu'il n'ait qu'une trentaine d'années. « Je préférerais que ce ne soit pas le cas, mais je m'en souviens. »« Et nous sommes censés faire une armée de ces hommes-là » demanda Moash. Kaladin a bien réussi avec le pont 4, répondit Teft en agitant un doigt vers Moash. Il va le refaire. Transformer quelques dizaines d'hommes et quelques centaines, c'est pas la même chose, répondit Moash, écartant d'un coup de pied une branche que la tempête majeure avait fait tomber à terre. Grand et solide, Moash avait une cicatrice au menton, mais pas de marque d'esclave sur le front. Il marchait avec le dos bien droit et le menton levé. Sans ses yeux marron foncé, il aurait pu passer pour un officier. Kaladin, à leur tête, longea un baraquement après l'autre, effectuant un rapide calcul. Il y avait près de 1000 hommes, et bien qu'il leur ait annoncé la veille qu'ils étaient désormais libres, et pouvaient retrouver leur ancienne vie s'ils le souhaitaient, peu d'entre eux semblaient vouloir faire autre chose que rester assis. Bien qu'il y ait eu 40 équipes de pont au départ, beaucoup avaient été décimés au cours de la dernière attaque, et d'autres étaient alors déjà en effectif restreint. « Nous allons les répartir en 20 équipes, » déclara Kaladin, « d'une cinquantaine d'hommes chacune. » Syl descendit sous la forme d'un ruban lumineux et se mit à volter autour de lui. Les hommes ne semblèrent pas remarquer sa présence. Elle devait être invisible à leurs yeux. « Nous ne pouvons pas former chacun de ces 1000 hommes personnellement, pas au départ. Nous allons devoir former les plus motivés d'entre eux, puis les renvoyer diriger et entraîner leurs propres équipes. « Sans doute, » répondit Teft en se grattant la barbe. C'était le plus âgé des hommes de pont, et l'un des rares à conserver la barbe. La plupart des autres avaient rasé la leur en signe de fierté, qui distinguait les hommes du pont 4 des esclaves ordinaires. Teft gardait la sienne bien entretenue pour la même raison. Elle était brun clair, là où elle n'avait pas grisonné, et il la portait courte et carrée, pratiquement comme celle des Ardents. Moash grimaça en regardant les hommes de pont.
« Vous partez du principe que certains d'entre eux seront plus motivés, Kaladin. Mais à mes yeux, ils paraissent tous aussi découragés les uns que les autres. »«
Certains auront encore l'envie de se battre, » assura Kaladin. « Ceux qui nous ont rejoints autour du feu hier soir pour commencer. Teft, je vais avoir besoin que vous sélectionniez les autres. » Organisez des groupes, puis choisissez 40 hommes, deux de chaque équipe, pour être entraînés les premiers. C'est vous qui dirigerez cet entraînement. Ces 40-là seront les germes dont nous aurons besoin pour aider les autres.
Je dois pouvoir faire ça.
Parfait. Je vais vous affecter quelques hommes pour vous aider.
Quelques hommes, répliqua Teft. J'aurais besoin d'un peu plus que ça.
Vous devrez vous en contenter, répondit Kaladin. qui s'arrêta sur le chemin et se tourna vers l'ouest, vers le complexe du roi au-delà du mur du camp. Il se dressait sur un flanc de coteau qui dominait les autres camps de guerre. « La plupart d'entre nous vont être nécessaires pour garder Dalinar Colline en vie. » Moash et les autres s'arrêtèrent près de lui. Kaladin regarda le palais en plissant les yeux. Il ne semblait pas assez majestueux, loin s'en fallait, pour accueillir un roi. Ici, tout n'était fait que de pierre à perte de vue.
« Vous êtes disposé à faire confiance à Dalinar ?» demanda Moash.
« Il a renoncé à sa lame d'éclat pour nous, » répondit Kaladin.
« Il nous le devait bien, » grommela Scar. « Bourrasque, on a quand même sauvé sa peau. « Il aurait pu ne s'agir que d'une posture, » répliqua Moash en croisant les bras. « Des jeux politiques entre Sadeas et lui pour chercher à se manipuler l'un l'autre. »
Syl atterrit sur l'épaule de Kaladin, prenant la forme d'une jeune femme vêtue d'une robe d'un blanc bleuté, légère et vaporeuse. Elle joignit les mains et regarda vers le complexe du roi, où Dalinar Colline s'était retiré pour établir des plans. Il avait annoncé à Kaladin qu'il allait faire quelque chose qui mettrait beaucoup de gens en colère. « Je vais les priver de leur jeu. »
« Nous devons garder cet homme en vie, » répondit Kaladin en se tournant vers les autres. « J'ignore si je lui fais confiance, mais c'est la seule personne dans ces plaines qui ait témoigné d'un minimum de compassion pour les hommes de pont. S'il meurt, à votre avis, combien de temps il faudra à son successeur pour nous revendre à sa déesse ?»
Scar eut un ricanement de dérision.
« J'aimerais bien les voir essayer, avec un chevalier radieux à notre tête.
Je ne suis pas un radieux.
« Si vous le dites, » répliqua Scar. « Mais quoi que vous puissiez bien être, ils auront du mal à nous reprendre à vous. »
« Vous me croyez capable de tous les combattre, Scar ?»
demanda Kaladin en soutenant le regard du vieil homme.
« Des dizaines de porte-éclats ? Des dizaines de milliers de soldats ? Vous croyez qu'un homme seul en est capable ?»«
Pas un homme seul !» insista Scar. « Vous !»«
Je ne suis pas un dieu, Scar. Je ne peux pas repousser le poids de 10 armées. »
Kaladin se retourna vers les deux autres.
« Nous avons décidé de rester ici, dans les plaines brisées.
Pourquoi donc ?»
« À quoi bon s'enfuir ?» demanda Teft en haussant les épaules. « Même en tant qu'homme libre, on se ferait enrôler par l'une ou l'autre armée dans ces collines. Ou alors, on mourrait de faim. »
Moash acquiesça.
« Cet endroit en vaut un autre, du moment qu'on est libre.
Dalinar Colline est notre meilleur espoir d'obtenir une vraie vie, » reprit Kaladin, « en tant que garde du corps plutôt que main-d'œuvre enrôlée de force. » En homme libre malgré la marque sur notre front. Personne d'autre ne nous accordera ça. Si nous voulons la liberté, nous devons garder Dalinar Colline en vie.
Et l'assassin en blanc ?
Demanda Scar tout bas. Ils avaient entendu raconter ce que cet homme faisait à travers le monde, massacrant rois et hauts princes dans toutes les nations. La nouvelle faisait le tour des camps de guerre depuis que des comptes rendus avaient commencé à arriver par Echo Calam. Une demi-douzaine d'autres nations se retrouvaient sans dirigeant.
« Il a déjà tué notre roi, » répondit Kaladin. « Le vieux Gavilar a été la première victime de l'assassin. Nous n'avons plus qu'à espérer qu'il en ait terminé ici. D'une manière comme d'une autre, nous devons protéger Dalinar, quel qu'en soit le coût. »
Ils hochèrent la tête un par un, quoique à contre-cœur. Ils ne pouvaient pas leur en vouloir. Faire confiance à des Palsiris ne leur avait pas réussi jusque-là. Même Moash, qui disait autrefois le plus grand bien de Dalinar, semblait avoir perdu son affection pour lui, ou pour quelque Palsiris que ce soit. En réalité, Kaladin était lui-même un peu surpris de la confiance qu'il éprouvait. Mais après tout, nom des bourrasques, s'il appréciait Dalinar, à ses yeux, ce n'était pas rien.
« Pour l'instant, nous sommes faibles, » déclara Kaladin en baissant la voix. « Mais si nous jouons le jeu quelque temps et protégeons Colline, nous serons grassement payés. Je serai en mesure de vous former vraiment, comme soldat et comme officier. Par ailleurs, nous serons capables d'enseigner à ces hommes. Nous ne nous en sortirions jamais là-dehors si nous n'étions qu'une 20aine d'anciens hommes de pont. Mais si nous étions à la place, une force mercenaire extrêmement bien entraînée, un millier de soldats équipés du meilleur armement des camps de guerre. Même en envisageant le pire,
à savoir qu'il faille abandonner les camps, j'aimerais que nous le fassions sous la forme d'un groupe soudé, endurci, impossible à ignorer. Qu'on me donne un an avec ces 1000-là, et je peux y arriver.
Alors ça, c'est un plan qui me plaît bien, répondit Moache. Je pourrais apprendre à me servir d'une épée?
Nous restons des sombres iris, Moache.
Pas vous, lança Scar de l'autre côté. J'ai vu votre regard pendant...
Arrêtez, leur dit Kaladin, avant de prendre une profonde inspiration.
Arrêtez. N'en parlons plus. Scar se tut.
Je vais vous nommer officier, reprit-il. Vous trois, ainsi que Sigzil et Rock, vous serez mes lieutenants.
Des lieutenants sombres iris? Demanda Scar.
Ce grade était fréquemment utilisé pour l'équivalent de sergent dans des compagnies uniquement constituées de pâles iris.
Dalinar m'a nommé capitaine, répondit Kaladin. Le grade le plus haut qu'il ait osé accorder à un sombre iris. Eh bien, il faut que je mette en place une structure de commandement pour 1000 hommes, et il va nous falloir un intermédiaire entre sergent et capitaine. Ça implique de vous nommer lieutenant tous les 5. Je crois que Dalinar m'y autorisera. Nous allons nommer des sergents-chefs s'il nous faut un autre grade. Rock sera intendant et responsable des repas pour les 1000. Je lui affecterai l'open comme second. Teft, vous serez chargé de l'entraînement. Sigzil sera notre clerc. C'est le seul qui sache lire les glyphes. Moache et Scar,
il se tourna vers les deux hommes. L'un petit, l'autre grand, il possédait la même démarche agile et menaçante, la lance constamment sur l'épaule. Il ne se déplaçait jamais sans. De tous les hommes qu'il avait formés au sein du pont 4, seuls ces deux-là avaient compris instinctivement. C'étaient des tueurs. Comme Kaladin lui-même.
Nous trois, leur dit-il, nous allons nous concentrer sur la surveillance de Dalinar Colin. Chaque fois que ce sera possible, je veux qu'un d'entre nous le garde personnellement. Très souvent, l'un des deux autres surveillera ses fils. Mais ne vous y trompez pas, c'est l'épine noire que nous allons garder en vie, à tout prix. Il est notre seule garantie de liberté pour le pont 4. Les autres acquiescèrent.
Parfait, commenta Kaladin. Allons chercher les autres hommes. Il est temps que le reste du monde vous voie comme moi.